Accent d'Europe, Catherine Roland.
Это Лена и Денис. Они вместе уже полгода.
Bonjour à tous. Contrairement à la tendance générale observée en Europe, le sida explose en Russie. Le nombre de cas recensés a été multiplié par 10 en 15 ans. Et comme beaucoup ignorent leur séropositivité, l'épidémie pourrait être bien plus préoccupante encore. Les premiers concernés sont les toxicomanes évidemment, mais le virus dépasse les catégories dites à risque. Les autorités russes semblent enfin prendre conscience de l'épidémie, mais les mesures de prévention restent bien en deçà de la gravité de la situation. Reportage à Moscou, Étienne Mouche.
Vadim Pokrovski est le meilleur spécialiste du sida à Moscou. Chaque fin d'année, ce professeur annonce la mauvaise nouvelle à la presse. Le nombre de séropositifs en Russie ne cesse d'augmenter. Et la tendance s'est accélérée ces dernières années.
Malheureusement, je dois commencer par donner de mauvais chiffres et vous dire ce qui a changé en un an par rapport à la situation que j'évoquais l'année dernière. À l'époque, on n'était pas encore à 1 million de séropositifs dans le pays. J'avais prévenu qu'on atteindrait le million cette année. C'est ce qui s'est produit dès le mois de février.
Et il ne s'agit que des cas recensés. Les professionnels estiment que le nombre d'individus concernés est plus élevé. La population russe est mal informée et la pratique du test peu répandue. La question du sida a longtemps été ignorée. Elle est aujourd'hui abordée dans les médias, mais les autorités continuent de la regarder de loin. Le budget du ministère de la Santé consacré à la lutte contre le sida a été multiplié par 2 l'année dernière et en même temps, les mesures de prévention sont quasiment inexistantes. La logique qui semble prévaloir, c'est guérir plutôt que prévenir. Et la prise en charge laisse à désirer. L'accès aux soins est limité faute de moyens et les médicaments génériques russes utilisés sont de faible qualité. À Moscou, une campagne de sensibilisation a néanmoins fait son apparition récemment dans les wagons de métro. Une initiative de la mairie qui n'est pas soutenue par l'État. L'infidélité te fait basculer dans un groupe à risque. Sur cette affiche, rien sur les modes de transmission ni sur les pratiques dangereuses. Pas sûr que cet appel aux bonnes mœurs soit très dissuasif. L'inertie du pouvoir inquiète notamment les associations de défense des minorités sexuelles. Dans la banlieue de la capitale, elles ont organisé au mois de décembre leur première conférence nationale sur le sujet. Les homosexuels font partie des populations à risque, et pourtant, la lutte contre le sida n'a pas toujours été une de leurs priorités. Valérie Sozaïev, l'un des organisateurs.
Longtemps, les mouvements LGBT russes ont défendu leur cause militante. Des causes évidemment importantes, mais la question de la santé était malheureusement un peu hors champ. Aujourd'hui, les militants de la lutte anti-sida et les mouvements LGBT ont pris conscience qu'il était impossible de contenir l'épidémie sans se rassembler ni agir ensemble.
Car le pouvoir russe pratique la politique de l'autruche. Il ignore les groupes sociaux dont il désapprouve les pratiques. Dans le pays, les premiers concernés par le virus du sida sont les toxicomanes. Selon le professeur Pokrovski, ils représentent plus de la moitié des séropositifs. 2 soirs par semaine, par tous les temps, Maria se rend dans un quartier à la périphérie de Moscou. Elle patiente près d'une pharmacie bien connue des consommateurs de drogue. Son sac est chargé de médicaments et de seringues.
Si la personne a de la drogue mais pas d'argent pour s'acheter des seringues, elle va utiliser celles qui ont déjà servi plusieurs fois à d'autres. Et c'est comme ça que se transmettent les maladies comme le sida, les hépatites. Notre travail consiste à préserver la santé de ces personnes et de leur entourage.
Maria travaille pour la fondation André Rilkov, une ONG qui, depuis cet été, est considérée par la justice comme un agent de l'étranger. Ça n'empêche pas l'organisation de travailler, mais elle est par contre soumise à de nombreuses lourdeurs administratives. En Russie, il n'existe qu'une politique à l'égard des toxicomanes, le sevrage sans substitution. Mais pour le représentant de cette ONG, Maxime Malichev, la manière forte ne mène à rien.
La réhabilitation, c'est un tout. C'est d'abord le travail fait dans la rue, qui n'est pas soutenu par l'État. C'est une désintoxication adaptée. Dans ce domaine, on en est toujours à la psychiatrie punitive des années 60. La rééducation et enfin la resocialisation, parce que ces gens qui ont traversé beaucoup de difficultés ne peuvent pas reprendre une vie normale après 2 ou 3 mois.
Pour l'État russe, le sida est longtemps resté une affaire de dépravés. Mais l'inquiétante propagation du virus dans toutes les catégories contraint les responsables politiques à forcer la bienséance. Le sida est une maladie très dangereuse qui peut toucher n'importe qui, et faire comme si elle ne concernait que des marginaux est tout simplement malhonnête. Ces mots ont été prononcés par le Premier ministre Dmitri Medvedev en 2015. Seulement, la réponse à cette prise de conscience est déconnectée de la réalité. Sous l'influence de l'Église orthodoxe, l'État loue la stabilité de la famille traditionnelle. Et le grand absent dans ses réflexions, c'est le préservatif.
Et c'est tout le contraire au Royaume-Uni où la maladie régresse de façon spectaculaire. Ce succès est dû en partie à la généralisation de la vente sur Internet d'un médicament, le PrEP. Le NHS, le système de santé britannique, ne le rembourse pas encore. Alors, beaucoup achètent la version générique sur Internet. Marie Billon nous appelle de Londres.
Sur le site Internet I Want PrEP Now, comprenez, je veux la PrEP maintenant, on peut commander sa dose mensuelle en confiance. C'est en tout cas ce qui est indiqué. Le système de santé national a décidé de ne pas distribuer gratuitement ce traitement, alors pour éviter de payer 400 livres par mois, des centaines, voire des milliers d'Anglais achèteraient ce générique disponible sur Internet dans des pharmacies d'Inde, par exemple. Acheter des médicaments sur Internet est d'habitude fortement déconseillé par les professionnels de la santé, mais I Want PrEP Now dit travailler avec des cliniques du NHS pour tester la qualité des produits. Jusqu'à présent, selon le journal The New Scientist, aucune des substances testées ne serait altérée. I Want PrEP Now estime qu'environ 2000 personnes utilisent ces services. Le sida est une maladie qui coûte cher, alors encourager la prise de la PrEP représenterait à long terme une vraie économie, disent certains spécialistes. La prise de ce médicament baisserait considérablement le taux de contamination. Il est encore trop tôt pour s'emballer, mais je ne vois pas quel autre facteur aurait pu faire diminuer la transmission du virus, a d'ailleurs estimé un représentant de l'école d'hygiène et de médecine tropicale de Londres. I Want PrEP Now et le site d'information PrEPster estiment qu'il est dans l'intérêt public que le médicament soit disponible à travers le système de santé national, comme c'est déjà le cas dans plusieurs pays européens, et a donc intenté un procès au NHS. Les juges leur ont donné raison et le système de santé a annoncé dans un premier temps un essai concernant 10 000 personnes.
C'est sans doute un effet Trump. Depuis l'arrivée du milliardaire américain à la Maison-Blanche, les populistes européens se sentent pousser des ailes. Du coup, la Hongrie de Viktor Orban durcit le ton contre les ONG, notamment celle soutenue par George Soros. Le milliardaire américain d'origine hongroise est l'une des bêtes noires du chef de l'État, dont les études à Oxford ont pourtant été financées par le Mania. Le gouvernement, lui, veut faire le ménage parmi les défenseurs des droits, soi-disant sous influence de l'étranger. Et c'est le reportage de Florence Labruyère.
Le ton est donné. Quelques jours avant l'investiture de Donald Trump, le vice-président du parti du Premier ministre Viktor Orban donne une conférence de presse à Budapest. Szilard Németh déclare que les organisations de défense des droits de l'homme sont des agents de l'étranger et il annonce une véritable chasse aux sorcières.
Nous allons utiliser tous les outils à notre disposition pour chasser ces organisations du pays. La nouvelle situation internationale nous en offre la possibilité.
Cette nouvelle situation, c'est l'élection de Donald Trump. Une victoire applaudie par le Premier ministre hongrois Viktor Orban, chef d'une droite nationaliste. Le 13 janvier dernier, à la radio hongroise, Orban se dit soulagé du départ imminent de Barack Obama. Il accuse ce dernier d'avoir utilisé les ONG pour s'immiscer dans la politique hongroise.
Sous le gouvernement Obama, l'Amérique a mis en place un système pour influencer la politique d'autres pays de manière extrêmement primitive. Mais comme l'Amérique est notre allié, Je crois qu'il ne faut pas s'occuper du passé, mais de l'avenir, et espérer que ce genre de choses ne se reproduira plus.
Le gouvernement a donc annoncé son objectif, expulser les associations qui reçoivent des subventions de la fondation Open Society, la société ouverte. Cette fondation, créée par le financier américain George Soros, soutient les ONG qui défendent les droits civiques et la démocratie. C'est le cas de l'association hongroise pour les libertés civiles. Maté Szabó est l'un des responsables de cette association. Il prend au sérieux la menace du pouvoir.
Ce n'est pas nouveau. En 2014, le gouvernement avait déjà mené une campagne d'intimidation contre nous. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est la communication du gouvernement. Il parle de nettoyer le pays des ONG. Avant, il disait qu'on n'avait pas de légitimité, que notre travail n'était pas transparent, qu'on était inutile. Et maintenant, il parle de nous chasser.
L'Association pour les libertés civiles critique régulièrement le démantèlement de la démocratie par le gouvernement Orban. Mais elle défend aussi les citoyens contre les abus des élus locaux, dont la majorité appartient au parti du Premier ministre. Maté Szabó.
Nous fournissons un avocat aux citoyens qui sont poursuivis en justice parce qu'ils ont critiqué des élus locaux. Ces gens n'auraient pas les moyens de se défendre tout seuls.
Vous voulez dire qu'il y a des gens qui sont traînés en justice simplement parce qu'ils ont critiqué la gestion du maire ou parce qu'ils ont parlé de la corruption locale ?
Oui, il y a beaucoup de cas comme ça. Ces citoyens sont poursuivis au civil et parfois même au pénal.
Le gouvernement n'a pas dit comment il comptait expulser les ONG. Dans un premier temps, un projet de loi va être déposé au printemps. Il obligera les dirigeants associatifs à publier leurs revenus et leur patrimoine. Car selon le Premier ministre Viktor Orban, ces associations travaillent de manière opaque.
Qui les paie ? D'où vient l'argent ? De Hongrie ou de l'étranger ? Si l'argent vient de l'étranger, est-ce que le donateur attend quelque chose de l'association en contrepartie? Ou est-ce que c'est un don? Les Hongrois ont le droit de savoir à quel point leur vie quotidienne est influencée par ce système de pression et de manipulation politique. Ça fait partie des droits fondamentaux. Ce que nous voulons, c'est la transparence.
Pourtant, les associations sont déjà soumises à un contrôle comptable très strict. Alors pourquoi cette nouvelle loi? Élément de réponse avec Marta Pardavi, coprésidente du comité Helsinki de Hongrie.
Le but de ce projet de loi est clair, c'est de faire taire ceux qui ont une opinion différente de celle du gouvernement. Obliger par exemple les ONG à soumettre de nouveaux rapports financiers, des rapports compliqués qui nécessitent le travail de plusieurs personnes. C'est une tactique bien connue, dont le but est en fait de les empêcher de travailler.
Il y a quelques jours, l'Américain George Soros a qualifié d'inacceptables les menaces du gouvernement hongrois contre la société civile. Les associations hongroises sont désormais sur le qui-vive.
Et l'on peut dire que Viktor Orban fait des émules dans les Balkans, on le constate en Macédoine. Dans une mauvaise passe après leur victoire étriquée aux législatives de décembre dernier, les nationalistes s'en prennent eux aussi aux ONG financées par le milliardaire George Soros et c'est Simon Rico.
Le 17 janvier, un mouvement citoyen baptisé Stop Opération Soros a été lancé en Macédoine. Les initiateurs de ce projet, dont l'acronyme est SOS, se présentent comme des citoyens libres d'esprit, bien décidés à éliminer les ONG financées par le milliardaire américain connu pour son engagement libéral, notamment dans les anciens pays communistes. Motif invoqué, ces ONG serviraient les intérêts d'un seul camp politique, celui des sociodémocrates, la principale force d'opposition du pays. En réalité, cela fait longtemps que la société civile est dans le collimateur du Vømmøre Dupermøe, le parti qui dirige d'une main de fer la Macédoine depuis maintenant une décennie. De plus en plus proche du pouvoir autoritaire de Viktor Orban, le Vømmøre Dupermøe s'est sans doute senti pousser des ailes après l'annonce par le gouvernement hongrois de sa volonté d'expulser les organisations humanitaires soutenues par George Soros. Il faut dire que les nationalistes conservateurs macédoniens se trouvent dans une position délicate après les législatives anticipées qui ont eu lieu le 11 décembre dernier. Leur courte victoire les empêche de pouvoir former un gouvernement, d'autant que les chancelleries occidentales font tout leur possible pour mettre en place un cabinet technique qui sera chargé d'organiser un nouveau scrutin au printemps. Cette attaque violente contre la société civile ressemble donc au chant du cygne d'un régime aux abois qui a peur de perdre le pouvoir. Les analystes n'ont d'ailleurs pas manqué de railler le retournement de veste du Vømmøre Dupermøe, dont de nombreux cadres sont passés par la case Soros avant d'accéder au pouvoir. C'est notamment le cas du président Gheorghe Ivanov qui a fait partie du conseil d'administration de la filiale macédonienne de l'ONG Open Society.
say that, boy, you don't know we don't play now. Put up the phone anytime, anywhere now. Flash up your Samsung, show
me your iPhone. Bonjour Evmino.
Bonjour Catherine.
Alors, nos auditeurs l'ont compris, hein, nous allons parler d'un petit objet devenu indispensable, une extension de notre main en fait, et nous allons parler aussi du comportement que l'on adopte avec, enfin les plus jeunes en tout cas, car c'est bien connu, ils seraient totalement accros à leur portable, ils ont grandi avec, ils dorment avec, et ils vivent comme une souffrance le fait de s'en séparer pendant les cours. Et pourtant, hein, Eve, une nouvelle étude européenne affirme le contraire, les jeunes ne seraient pas plus accros que les autres.
Oui, c'est une étude réalisée en Europe auprès de 1500 étudiants européens, donc par le site Uniplaces, une plateforme de logement que l'on pourrait décrire un peu comme le Airbnb des étudiants. Selon cette étude, près d'un jeune sur deux serait capable de se passer de son téléphone toute une journée. Parmi les jeunes qui affichent leur indépendance en Europe, on retrouve surtout les Italiens qui s'en imaginent capables à 53%, les Espagnols 44% et les Portugais autour de 40%. Les Français, eux, semblent un peu plus accros que leurs voisins. Ils sont moins de 1 sur 3 à s'imaginer pouvoir se passer de leur portable une journée entière.
Alors paradoxalement, ces derniers sont les plus nombreux à considérer que se passer de son smartphone pendant plusieurs jours, c'est une bonne chose.
Oui, près de 35% des Français se verraient bien tenter l'expérience de se passer de téléphone pendant plusieurs jours de suite. Ils sont beaucoup plus confiants là-dessus que leurs voisins européens, qui ne sont que 1 sur 5 à penser pouvoir y arriver. Selon ce sondage, toujours, les deux tiers des étudiants européens déclarent utiliser leur téléphone pendant la marche principalement, attention quand même à pas louper un trottoir, dans les transports en commun, pour la moitié d'entre eux, et à noter quand même pour l'anecdote que le troisième lieu le plus cité, c'est les toilettes.
Autre enseignement de l'étude, Eve, les étudiants utilisent leur portable pour rester en contact. Eh oui, c'est original.
Oui, alors dit comme ça, ça paraît évident, mais c'est quand même intéressant de voir que les jeunes n'arrêtent pas de communiquer toute la journée avec leur entourage. Parmi les applications qui ont le plus de succès, on retrouve ainsi, sans surprise, les réseaux sociaux, bien sûr, mais surtout les applications de messagerie. Dans ces applications, ils peuvent entretenir des conversations qui comptent 5, 10 ou 15 interlocuteurs au sein d'un même groupe. Fini le texto envoyé à un seul ami pour prendre des nouvelles. Aujourd'hui, les étudiants mêlent des conversations écrites et instantanées avec des groupes distincts où ils échangent informations, photos, où ils s'organisent. On est donc bien dans l'âge de l'hypercommunication qui, paradoxalement, fait donc une large place au retour de l'écrit.
Ce que l'on ne sait pas encore, c'est quel impact cette hypercommunication a sur leur santé à long terme.
Oui, notamment dans la formation du cerveau qui évolue jusqu'à l'âge de 25 ans environ. Aujourd'hui, les scientifiques sont très vigilants, mais plusieurs travaux anglo-saxons émettent déjà des hypothèses sur les conséquences négatives en matière de créativité et sur la difficulté plus grande, notamment chez le garçon, à composer avec l'attente.
Et puis, les jeunes ne sont en tout cas pas plus nomophobes que leurs parents.
Non, et ça c'est la bonne nouvelle. Souvenez-vous, la nomophobie, c'est le terme créé à la fin des années 2000 pour désigner l'angoisse d'avoir perdu ou oublié son téléphone chez soi. Et en lire cette étude, il semblerait qu'en réalité, les jeunes ne soient donc pas plus stressés que leurs parents. Ils savent encore reconnaître que c'est bien sympathique de savoir se passer d'un téléphone intelligent, hein, d'un smartphone, et d'être déconnecté d'Internet. Finalement, c'est un peu comme si les téléphones connectés qui nous ont captivés pendant si longtemps, pendant des années, retrouvaient leur place initiale, celle d'un objet utile, sans plus.
Alors, certains jeunes font même un choix radical, celui de se passer carrément du smartphone.
Oui, alors cet aspect-là n'est pas traité dans l'étude, mais aujourd'hui, il semblerait bien qu'une nouvelle tendance émerge, c'est celle du dumb phone, le téléphone bête par opposition au smartphone, le téléphone intelligent. Bref, c'est un retour au bon vieux téléphone portable des années 90, celui qui ne faisait que téléphoner avec quelques touches et un tout petit écran. Certains collectionneurs se les échangent à prix d'or sur le net. Vous voyez Catherine, vous n'auriez pas dû jeter vos téléphones il y a 15 ans.
Mais justement Eve, je ne l'ai pas fait.
Bon bah tant mieux, aujourd'hui ils sont peut-être considérés comme des téléphones de collection. Plus sérieusement, les fabricants de téléphones se lancent sur ce marché qui revient, celui des téléphones simples et légers que l'on peut échanger contre son smartphone quand on désire un peu de tranquillité.
Merci Eve Minot et on vous retrouve évidemment la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Accent, c'est déjà fini, mais je vous retrouve demain, c'est promis, à la réalisation Françoise Grelot. Et vous pouvez nous retrouver en attendant sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute dans quelques instants, un peu de patience, le journal.